cette troisième journée d'un grand colloque consacré à l'étude de la relation problématique entre les religions et les processus de racialisation. Peut-être serez-vous étonné de vous retrouver ici après avoir été au Mans hier. En fait, le lien entre le Mans et Paris s'explique par le parcours même de l'organisateur de cet événement, notre ami Vincent Villemain, qui a préparé sa thèse dans le laboratoire qui nous accueille aujourd'hui, le groupe Société, Religion, Laïcité. Il y a préparé sa thèse avant d'être élu, vous le savez sans doute, maître de conférence à l'Université du Mans. Et je le remercie vivement, comme chacun d'entre nous, au laboratoire pour cette marque de fidélité. Et je le remercie aussi pour avoir pensé ce colloque au questionnement si riche, surtout en France, du reste, où l'on renacle souvent, contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis. Il y a une véritable mobilisation sur ce type de questions où l'on renacle souvent pour parler de la question de la race. On préfère, en France, évoquer les identités culturelles, même si c'est pour exprimer souvent le même type de réalité, l'assignation d'un groupe et des individus qui le composent à un statut essentialisé et même stigmatisé pour parler comme Glenn Laurie. En parcourant le programme de ces trois journées, on repère, je crois, trois points majeurs de questionnement à partir desquels pourra s'opérer une véritable avancée de la connaissance. On en parlait tout à l'heure, notre ami Vincent veut poursuivre sur ce terrain et on voit bien qu'il y a d'ores et déjà des pierres tout à fait fondamentales qui ont été posées à un nouveau chantier. Le colloque s'interroge d'abord sur la genèse, on pourrait dire la construction, car il me semble que notre perspective est une perspective de type socio-constructiviste. Construction des catégories raciales, l'analyse au fond des processus de racialisation. Et sur ce point, il y a une sorte de rupture dans notre intelligence de la réalité. On a longtemps estimé que la construction des catégories raciales avait à voir avec le discours de la biologie, le discours de la génétique aujourd'hui, dont on trouverait peut-être les origines chez Buffon, avec un développement très sensible, évidemment, à la fin du XIXe siècle, à la faveur du biologisme darwinien, avant de se fixer dans la sociobiologie wilsonienne. Mais évidemment, le colloque dépasse cette première impression. Elle ne rejette pas, bien sûr, cette généalogie, mais il ajoute un élément tout à fait novateur qui déplace les chronologies. Les catégories raciales ont souvent été construites de l'intérieur même du champ religieux, ou en tout cas à partir de ses ressources cognitives. Alors on le voit pour ce qui concerne le monde chrétien, il y a un usage très intéressé de ce point de vue-là, très stratégique du discours biblique, mais on l'a vu hier dans le cadre de l'analyse des bouddhismes, on pourrait le voir également dans le cadre de la récupération de certains discours d'origine musulmane. Le colloque introduit aussi, me semble-t-il, une rupture dans l'appréciation de la géographie des catégories raciales. On a longtemps analysé les processus de racialisation comme étant une sorte de singularité de l'Occident, en lien avec un projet de domination impériale. On trouve des choses de ce style, en particulier chez Hannah Arendt, même si les catégories en question ont pu faire l'objet, à tel ou tel moment, de transferts culturels et donc de réception par les élites ou les groupes locaux des pays extra-européens. Et il me semble que l'un des grands apports de ce colloque est de pointer d'autres foyers d'émergence de l'obsession racialiste. Les mondes asiatiques ou arabes apparaissent bien avant la pénétration des idées occidentales comme des lieux d'expansion de discours autour de la classification ou et de la hiérarchisation des groupes. Puis il y a un troisième apport qui me semble être tout à fait essentiel et auquel on n'avait peut-être pas pensé, et il concerne l'usage de la notion de race. Usage de la notion de race, plusieurs communications ont démontré ou vont démontrer aujourd'hui la place du discours taxinomique dans les entreprises de domination, soit dans l'ordre interne des sociétés, soit dans l'ordre international. L'idée de race apparaît très clairement comme un instrument de pouvoir. Cette fonction peut même jouer dans le cadre des conversions dont on nous dit qu'elles ne se traduisent jamais par une absorption totale dans le groupe dominant, celui qui convertit. Mais il est aussi un autre usage de la race, que ce colloque permet de mettre en évidence. Un certain nombre d'entre nous, surtout en France, veulent supprimer ce type de catégorie dans une perspective éliminationniste, portée par tout un discours universaliste. On ne parle pas de la race, on ne parle pas des segmentations, on ne parle pas des ségrégations fondées sur la biologie. Mais on peut tout aussi bien retourner le stigmate en emblème, en y voyant dans cette race un moyen d'affirmer une identité fière, en y voyant aussi un moyen de dénoncer, comme c'est le cas aux États-Unis, dans les discours et dans la législation, les discriminations qui pèsent sur tel ou tel groupe racialisé. Le discours religieux peut donc aussi constituer une ressource de sens dans la construction de cette identité positive. Alors ces quelques mots ne signalent qu'une très mince partie, me semble-t-il, des richesses que j'ai pu percevoir dans les programmes qui m'ont été adressés. Encore une fois, le GSRL, le groupe Société, Religion, Laïcité, s'enorgueillit de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Nous avions, il y a quelque temps, ouvert un chantier que nous croyons assez novateur, genre et religion. Grâce à Vincent Villemain et à l'équipe qui l'a réunie, nous nous engageons sur un nouveau front, celui du rapport entre race et religion. Merci, cher Vincent, pour cette organisation. Merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Et je vous souhaite, évidemment, avant de m'effacer et avant de donner la parole à notre président Dominique Bourrel, le meilleur pour cette journée qui s'annonce. Merci à tous.
Merci beaucoup, cher Philippe. Attendez juste deux minutes, je voulais juste encore une fois souligner votre modestie, puisque le papier que vous venez de proposer ici pourrait certainement faire office de synthèse de ce colloque, alors même qu'il n'est pas encore terminé. Donc je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et puis même si les collègues qui étaient présents au Mans pourront témoigner que je l'ai déjà fait, je vais le refaire, mais rapidement, parce que c'est toujours un peu fastidieux pour l'auditoire. Mais je souhaite remercier tout particulièrement le GSRL et vous ici, et son conseil de laboratoire, de m'avoir accordé sa confiance dans ce projet qui, comme vous l'avez souligné, me tenait à cœur, cette volonté donc d'à la fois évidemment m'appuyer sur mon université d'appartenance aujourd'hui, mais aussi sur le labo au sein duquel j'ai fait ma thèse, et puis pouvoir bénéficier des richesses du GSRL en matière évidemment d'ouverture vers des mondes religieux différents. Et j'espère qu'en ce sens, le défi est réussi. Donc merci beaucoup de nous accueillir ici. Et puis je tenais à remercier aussi évidemment tous les invisibles en quelque sorte autour de ce colloque qui au GSRL ont œuvré comme ceux de l'Université du Maine à son succès. Donc là, sans doute derrière la vitre, il y a Thomas Guiffard ou Jean-René qui sont en train de permettre la diffusion en direct de ce colloque. Et puis je pense évidemment à Laurence et à Stéphanie qui ont assuré l'intendance de ce colloque avec toute la bienveillance, le sérieux et l'efficacité dont elles sont coutumières. Donc je les remercie, même si elles ne sont pas là, mais peut-être sont-elles connectées actuellement pour suivre la conférence en direct. Et donc sans plus attendre, eh bien, je vais donner la parole à Dominique Bourrel qui va présider cette cinquième session. Et je vais le présenter parce que souvent les présidents de session sont les moins bien présentés. Donc Dominique Bourrel est directeur d'études au CNRS et il a notamment, évidemment, moi ça me concerne, mais ça concerne quelques-uns ici, dirigé pendant 8 ans, je crois, le Centre de recherche français de Jérusalem. Il a tout récemment publié, il nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui parce qu'il est très occupé en lien avec cette publication, il a tout récemment publié une somme magistrale sur Martin Buber, qui s'intitule Martin Buber, Sentinelle de l'humanité, qui est paru donc, l'année dernière chez Albin Michel. Et donc, je lui cède la parole et j'invite Lucie et Dirk à rejoindre la table. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas Denis Pelletier, mais j'ai déjà 10 minutes de retard, donc je serai bien sûr impitoyable. Lucie et Dirk, s'il vous plaît. Et vous avez heureusement le curriculum vitae des intervenants devant vous, ainsi que les résumés. Donc, je demanderai aux intervenants de s'en tenir strictement à 20 minutes, en tenant compte des 10 minutes de retard, rassurez-vous, puisque je pense que tous les intervenants du matin sont là, donc nous n'avons aucune excuse. De toute façon, il y a une discussion prévue. Nous allons avoir la possibilité de parler après, pendant le déjeuner, et il y aura même des possibilités de publication. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, je suis très content d'introduire ici Lucie Quesnel, que je connais depuis très longtemps, qui a été très active d'abord à l'Université de Lausanne et qui maintenant s'est déplacé, pas très loin, mais vers Zurich, et à qui je cède la parole. En règle générale, je fais un signe les 5 dernières minutes, de manière à ce que la conclusion ne soit pas trop précipitée. Lucie, c'est à vous.
Difficile à rendre en français, l'adjectif « völkisch » est construit sur la racine allemande « Volk », qui signifie à la fois « peuple » et « nation ». Mais son acception dépasse la simple idée de populaire ou de national. Comme Friedrich Ludwig Jahn s'en explique dans un ouvrage de 1825 au titre révélateur « Deutsches Volktum », il veut proscrire tout pérégrinisme ou tout étrangisme, et plus largement, toute xénomanie, parce qu'ils ne sont qu'une imitation, souvent servile, voire une grotesque singerie, de ce qui, par essence, ne peut qu'être étranger à la culture allemande. C'est la raison pour laquelle il refuse de recourir au mot d'origine française « Nationalität » et invente le substantif « Volkstum », construit sur une racine germanique et non plus latine, pour désigner l'âme ou l'esprit d'un peuple, l'esprit ou le caractère d'une nation. Ce qui, je cite, il appelle un quelque chose d'indicible que l'on trouve en chaque peuple ou chaque nation, donc en chaque folk. Fin de citation. En d'autres mots, cette force qui, exprimant le génie d'un peuple, lui donne son unité organique. D'où le recours à l'adjectif völkisch pour ne pas utiliser le mot allemand à l'intonation bien trop française nationale. Un second point de terminologie. Du point de vue étymologique, Deutsch dérive de la racine indo-européenne teuta et signifie peuple, correspond aussi au grec ethnikos. C'est un point intéressant de noter que le fait qu'un peuple s'autodésigne comme le peuple et de qualifier son pays, Deutschland, de pays du peuple, de terre du peuple, donc d'établir ainsi un rapport privilégié entre le peuple et le sol sur lequel il vit. L'adjectif Deutsch, tel que nous le connaissons en haut allemand moderne, tout comme l'adjectif Völkisch, signifie donc celui qui appartient au peuple. Après avoir relevé ces quelques éléments d'ordre sémantique, il me faut dire quelques mots sur le contexte historique qui voit se développer la pensée völkisch. La longue quête de l'unité nationale allemande, avec ses échecs répétés, a poussé les Allemands à envisager une unité culturelle plutôt que politique. Conçue en termes de racines nationales, cette cohésion culturelle s'est construite sur un rapport d'opposition à tout ce qui est étranger, qu'il s'agisse de ceux qui n'appartiennent pas au peuple allemand ou encore des divers rapports de la modernité. L'unification politique de l'Allemagne sous la puissante Prusse protestante en 1871, donc la solution petite allemande et non la solution grande allemande qui aurait consisté à inclure les territoires germanophones sous domination habsbourgeoise, ne fait qu'accroître la déception des Allemands pour qui l'attente de l'unité en est venue à revêtir une dimension quasi messianique. Dans la mesure où l'unité politique n'a pas su créer la conscience nationale que nombre d'Allemands ont toujours souhaité, il faut asseoir l'unité allemande sur le particularisme germano-allemand. Le protestantisme allemand est loin de former un bloc monolithique. Il se caractérise, au contraire, par une diversité territoriale et confessionnelle, mais aussi par des sensibilités différentes entre conservateurs, orthodoxes, piétistes, libéraux, et jusqu'à ceux qui, en réaction contre l'Église établie, en appellent à de nouvelles expressions de la religiosité. Ce qui est discriminant pour le protestantisme allemand, c'est son rapport à la modernité. De plus, le fait que, dans l'Empire allemand, il n'existe pas de véritable séparation entre l'Église et l'État contribue à une forte interprétation de l'Église et de l'État de la religion et de la politique, que renforce la mise en avant de l'intériorité au sein du protestantisme allemand. La crise de la culture, qui, dès la fin du XIXe siècle, bouleverse la société wilhelmienne, se traduit par le refus du monde traditionnel de la bourgeoisie cultivée, donc le fameux Bildungsbürgertum, et implique la recherche de nouveaux modèles culturels et de nouvelles valeurs spirituelles qui, sous l'influence des conceptions folky, prennent alors forme. Le pessimisme culturel récuse la civilisation moderne au nom de la véritable culture, selon une opposition typiquement allemande, héritée de Ferdinand Tönnies, et que la remise en question de la foi dans le progrès rend plus aigu. Ce pessimisme fait endosser l'aspect négatif de la modernisation à la civilisation et reconnaît à la culture une valeur positive, une portée spirituelle. Malgré sa critique de la civilisation, le pessimisme culturel ne se veut pas pour autant passéiste, mais explore les voies d'une modernité de substitution, sous la forme d'une culture d'opposition qui s'articule autour de l'idée maîtresse de la réforme de la vie, la fameuse Lebensreform. Pour combattre la dissémination du monde moderne et lutter contre la modernité, nouvelle maladie de la civilisation, ces mouvements de réforme qui s'adressent à toutes les sphères de l'existence humaine prônent le retour à la nature et à la vie saine. Il vise la régénération de l'homme moderne, la construction d'un nouvel homme vivant en harmonie, voire en fusion avec le cosmos. Il se déploie dans un réseau inextricable. J'en cite quelques-uns. Culture du corps libre avec le naturisme, le féminisme, le sport. Avant-garde artistique, art industriel, réforme de l'habitat avec l'utopie des cités-jardins et des colonies d'artistes en signe de détestation de la grande ville, la Großstadt. Art du terroir, Heimatkunst, mouvement de jeunesse, réforme pédagogique, hygiène sociale qui glisse dangereusement vers l'eugénisme. Et surtout la religiosité vagabondante ou vagante, selon l'expression de Thomas Nipperdey, « vagierende Religiosität », qui, sur fond de problématiques néo-religieuses et de sécularisation, cristallise la quête d'une religiosité libre dans les milieux déçus par l'Église établie et compose un patchwork religieux tissé de syncrétisme, de religieux, religion de substitution, d'expression néo-païenne. La religiosité vagande est, pour ainsi dire, un produit dérivé du protestantisme, dans la mesure où le protestantisme, dans sa critique de la modernité, en général donne prise à l'esprit du temps. Mais cette religiosité vagante est aussi, dans sa critique de la modernité, un rejeton de la modernité, même si elle peut présenter des réactions antimodernes. Du fait qu'elle rassemble tout ce que l'époque connaît d'insatisfaction, de pessimisme, de critique, de contestation, elle constitue le terreau par excellence dans lequel l'antisémitisme va s'épanouir, nourri qu'il est de l'idéalisation de la pensée folkiche et de l'exaltation des idées nationalistes. Qu'en est-il de la pensée folkiche ? La pensée folkiche, qui puise dans le terreau du romantisme, en réaction contre le rationalisme de l'Aufklärung et l'aliénation des individus par l'industrialisation galopante, mais aussi en réaction contre une modernité et une civilisation qui coupent l'homme de son moi créateur, cette pensée folkiche tire sa dynamique de l'alliance d'une foi allemande et d'un mysticisme de la nature, avec le nationalisme, l'exaltation de la germanité, la teutomanie, ce qu'on appelle en allemand « Germanen, Schwärmerei », avec le racisme et l'antisémitisme aussi, autant de courants de pensée qu'elle a su fédérer en une idéologie nouvelle, dans une Allemagne aspirant à retrouver sa grandeur impériale. À partir de l'époque wilhelmienne, le terme Völkisch en est venu à désigner l'idéologie raciste et nationaliste de la droite allemande, dans toutes ses dérives, ses exaltations. La pensée Völkisch promeut l'idée d'un peuple racialement pur, doté de qualités, loyauté, bravoure, beauté, force, etc., censée être inhérente au premier germain. Pour les idéologues de la pensée Völkisch, le peuple est le fondement ontologique de l'unité nationale, ce que corrobore à leurs yeux la nature organique du Volk qui procède de la symbiose avec la terre naturelle, natale, avec la Heimat. Il en va du lien mystique de l'âme humaine avec l'essence de la nature, en vue de former la Volksgemeinschaft, une communauté nationale comprise comme totalité organique. En même temps qu'elle draine des références à l'occultisme et une révolte spiritualiste contre une modernité matérialiste, mettant en danger l'intégrité de l'âme aryenne, l'idéologie Völkisch fantasme sur une religion qui renoue avec les racines nordiques des ancêtres germains. En tant que descendants des Germains, les Allemands doivent retrouver leur nature héroïque que l'influence des cultures étrangères et par-dessus tout le christianisme ont atrophié. Le peuple allemand a besoin d'une religion de l'action, d'une religion de la nature et de la vie, d'une religion de l'ici-bas qui exalte sa créativité, sa vaillance et sa combativité. La religiosité Völkisch va puiser dans le fond de l'ancienne religion des Germains, des sagas nordiques, de la tradition mystique allemande avec Maître Eckhart et Jacob Böhme, de l'idéalisme allemand. Elle va aussi exalter la dimension spécifiquement allemande de la réforme de Luther, qui est célébrée comme le créateur de la langue allemande et comme un héros national qui accomplit l'histoire allemande pour revenir à l'authentique essence germanique. Un certain type de protestantisme allemand a été impliqué dans la mouvance Völkisch et quelques exemples serviront à illustrer cela. Le premier, Paul de Lagarde, de son vrai nom, Paul Anton Bötticher, 1827-1891, tient lieu de figure emblématique du mouvement Völkisch. Lui qui invoque une religion nationale de l'avenir, qu'il considère à la fois comme l'accomplissement de l'unité allemande et comme le remède à la décadence culturelle et spirituelle de l'époque. Lagarde est un brillant orientaliste, mais son arrogance et sa suffisance l'empêche de mener une carrière universitaire à la hauteur de ses compétences scientifiques et de son ambition. Son aigreur et son ressentiment se retrouvent dans sa Weltanschauung, dont rend compte le flot des Deutsche Schriften qu'il a publié, un ensemble de courts traités théologico-politiques fort polémiques qui le mettent en relation avec des antisémites tels que Theodor Fritsch ou Adolf Stöcker. Le regard négatif que Lagarde porte sur le monde moderne l'amène à énumérer les symptômes du délabrement culturel et de la corruption morale qui portent atteinte à l'essence héroïque de la germanité. Lagarde s'en prend à l'esprit petit bourgeois, au matérialisme, à la stérilité culturelle. Sont accusés d'être responsables de cette dégénérescence les libéraux et les universitaires, mais aussi les juifs, dont la nature est incompatible avec le caractère profond du folk allemand. Seule une régénérescence spirituelle est à même de redonner un élan créateur au pays, d'insuffler la vitalité, de renouveler les valeurs morales de l'homme. Défendant une conception héroïque de l'homme et de la nation, il glorifie le génie et l'individu, mais déprécie l'homme économique et politique. En ce sens, il s'inscrit dans une vision anti-moderne et s'installe dans l'idéalisme du refus de la modernité. Pour Lagarde, la nation ressortie au sacré Et la nationalité se définit par des idéaux portés par la nation, mais que seule la religion peut déterminer. Toutefois, le christianisme ne saurait être en mesure de régénérer la communauté nationale allemande, car il est une religion à vocation universelle et il est responsable des nombreuses fractures qui divisent la nation allemande. Pour Lagarde, il s'agit de créer une religion nationale et de redonner au christianisme sa véritable place de religion historiquement dépassée qui doit être expurgée de son héritage juif afin de contribuer à l'élaboration de la religion de l'avenir. La nouvelle religion devra exprimer la destinée et l'éthos particulier du peuple allemand en remettant à l'honneur les vertus germaniques. Elle ne sera plus une religion transcendante, renvoyant à un au-delà, mais une religion immanente de l'ici et du maintenant. Elle doit devenir la base spirituelle d'un État nouveau, avec sa conception d'une religion nationale qui en appelle à un christianisme déjudaïsé, Lagarde ouvre une voie qu'emprunteront d'autres penseurs protestants. Et l'un des premiers à suivre Lagarde va être Arthur Bonus, 1864-1941, qui, après avoir exercé le ministère pastoral qu'il doit quitter en raison de problèmes de santé, devient un écrivain indépendant. Dans l'ensemble de son œuvre, il en appelle à la germanisation du christianisme et au retour à l'élément germanique primitif de la religion, afin de conformer la foi chrétienne à la pensée germanique. Alors que l'Allemagne a été conquise par le christianisme, qui en réalité est une religion étrangère, la crise religieuse actuelle ouvre la perspective d'une refonte de la religion à partir de l'esprit germanique en vue de former l'homme nouveau, au sens nietzschéen de l'Übermensch. Chez Bonus, la religion n'est pas enfermée dans un rêve, dans le rêve d'un passé germanique avec la mythologie nordique, mais elle coïncide avec la prophétie d'un nouveau mythe censé dépasser l'élément rationnel de la culture moderne. En définissant le mythe comme l'expression religieuse d'un peuple, d'une culture, d'une époque donnée, Bonus diagnostique la véritable raison de la crise de son temps, dans le fait que le mythe chrétien correspond à une autre époque, celle de l'Antiquité tardive, et est en inadéquation avec la modernité. La religion de l'avenir naît d'un mythe nouveau, capable d'exprimer la religiosité des Allemands d'aujourd'hui. Protestant hétérodoxe, Bonus peut être regardé comme le pionnier littéraire des différents groupements de Deutsche Christen, chrétiens allemands, qui, voulant conduire les églises réformées dans la rénovation nationale préconisée par le nazisme, s'efforce de formuler une synthèse entre la Weltanschauung völkisch et la foi chrétienne. Autre vulgarisateur des idées de Lagarde, l'écrivain allemand Arthur Drews, 1865-1935, qui tente de rassembler le monisme et le panthéisme dans un christianisme non confessionnel et qui, poursuivant la tradition qui met l'accent sur la germanité et du coup déjudaïse le christianisme, il en vient même à préconiser une religion allemande dans son livre qui s'intitule précisément « Deutsche Religion ». Et ce qui en fera l'initiateur idéologique du mouvement nationaliste et du national-socialisme. À partir des années 1910, le renouveau confessionnel luthérien reçoit une nouvelle impulsion avec la Luther Renaissance qui est initiée par Karl Hall et qui entraîne notamment dans son sillage Werner Ehlert, Paul Althaus, Emmanuel Hirsch. L'interprétation que donne Hall de la justification par la foi chère à Luther implique une conformation éthique de la société humaine qui va trouver sa formulation dans l'idée selon laquelle la communauté nationale, donc la fameuse Volksgemeinschaft, accomplit sa mission d'édification du royaume de Dieu dans la Volkskirche, l'église du peuple, pas du tout comprise au sens d'église multilunioniste, mais vraiment d'église du peuple, et aussi dans l'État national. En qualifiant la famille, le mariage, le peuple, la race, la nation, l'État, d'ordre de la création de Dieu, Schöpfungsordnungen, Althaus et Ehlert ne considèrent pas seulement ces ordres comme des cadres servant à garantir et préserver la vie, en circonscrivant les conséquences du péché pour la cohabitation des êtres humains. Selon eux, ces ordres sont des lieux où Dieu vient à la rencontre des humains. Dieu ne parle pas uniquement dans le Christ Jésus, mais également dans les ordres de création et dans les événements qu'il commande. Althaus et Ehlert recourent ici à la célèbre distinction luthérienne entre loi et évangile, entre ce qui, vivifié par l'Esprit Saint et proclamation de l'Évangile qui opère le salut de Dieu, et ce qui, détourné par l'Esprit humain pour devenir une œuvre humaine prétexte d'auto-justification, est loi qui condamne et qui tue. Prétendre que les ordres de création, précisément parce qu'ils seraient l'expression de la volonté de Dieu, peuvent donc être parole de Dieu, ou évangile d'une part, loi d'autre part, selon que leur usage est dévoyé, revient tout bonnement à les justifier. Du coup, parce qu'ils sont posés comme relevant de l'ordre divin, la famille, la nation, l'État, la race, le peuple, deviennent le cadre obligatoire de la vie. Et à ce titre, le peuple, qui désormais n'est plus compris dans son sens théologique de peuple de Dieu, mais dans un sens purement ethnique, confère une normativité théologique à la réalité politique de l'État, légitimant ainsi les moyens pour imposer des intérêts nationaux. En légitimant l'obéissance au pouvoir en place et la soumission aux autorités politiques, et on pense notamment aussi au texte de Paulinien de Romains 13, la doctrine des ordres de création va désamorcer tout potentiel de résistance du discours que théologiens ou instances ecclésiastiques protestantes, notamment les représentants de l'Église confessante de la Bekennende Kirche, auraient pu opposer à l'idéologie nationale-socialiste. De la part prise par des penseurs protestants dans la diffusion de la pensée völkisch, il conviendrait ici aussi de rappeler le militantisme et l'engagement nazi de théologiens protestants, que ce soit en s'enrôlant dans les rangs des Deutsche Christen, ce que vous allez entendre dans la contribution qui suit, ou aussi en devenant membre du parti socialiste, du parti nazi, souvent dès les années 1930. Deux cas qu'on peut citer très rapidement pour plus ou moins clore. Le premier, celui de Gerhard Kittel, qui est très connu des théologiens parce qu'il est l'auteur du Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, mais pour qui l'année 1933 va marquer un tournant dans la mesure où c'est l'année de son adhésion au parti nazi, mais c'est aussi l'année où il publie une conférence sur la Judenfrage, donc la question juive, où il affiche un antisémitisme chrétien réfléchi en soutenant que les Juifs, peuple élu, ne doivent pas se mêler aux autres peuples. En établissant une distinction entre les Juifs émancipés et le peuple d'Israël de l'Ancien Testament, Kittel peut dès lors affirmer la décadence du judaïsme contemporain, ce qui l'amène à soutenir que les Juifs n'ont pas droit à la citoyenneté allemande. Une deuxième personne emblématique est la figure de Walter Grundmann, qui a été professeur de Nouveau Testament et de théologie völkisch, vous avez bien entendu, à la faculté de théologie de l'Université de Jena, et qui va diriger l'Institut de recherche et d'élimination de l'influence juive sur la vie ecclésiastique allemande à Eisenach. Que cet institut ait été à Eisenach n'est pas anodin, parce que c'est au-dessus de Eisenach se trouve la Wartburg, où Luther a pu se réfugier, protégé par Frédéric le Sage, et c'est là qu'il a commencé la traduction du Nouveau Testament en allemand, et cette traduction va devenir la création de la langue allemande, d'une certaine manière. Grundmann comprend sa tâche comme celle d'un nouveau réformateur, et à la tête de l'Institut, il va proposer, sous un titre très significatif, de Volkstestament, donc le Testament du peuple, une version völkisch du Nouveau Testament. Donc vous voyez bien le parallèle entre la traduction de Luther et cette version völkisch expurgée du Nouveau Testament. Et pour la petite histoire, Grundmann sera de 1955 à 1969 l'I.M. Berg, Inoffizieller Mitarbeiterberg, ce qui était un euphémisme pour les informateurs de la Stasi. Juste deux mots de conclusion. On aurait pu évoquer beaucoup d'autres cas, vous en entendrez d'autres. Les exemples donnés ici veulent illustrer le rôle joué par la pensée protestante dans la construction de l'identité nationale allemande, à un point tel qu'il faille parfois le déplorer, voire le dénoncer, lorsque les adaptations théologiques se font accommodation, approbation, complaisance, soutien inconditionnel à un régime totalitaire qu'il convient de condamner sans autre, lorsque des concepts sont tellement décontextualisés et absolutisés qu'ils en viennent à être totalement pervertis. Si la théologie réformée de l'Alliance a pu mener aux dérives que l'on connaît avec la réinterprétation de l'idée de peuple élu, et Gilles Tellier nous a parlé de l'apartheid, le monde allemand, plutôt luthérien, aura fait valoir d'autres cartes pour appuyer les expressions nationalistes d'une idéologie du peuple élu, car il me semble bien qu'il faille voir dans la pensée völkisch une doctrine du peuple élu. Ce que des penseurs juifs ardents défenseurs de l'assimilation ou de l'intégration des juifs à la culture allemande au XIXe siècle avaient déjà relevé à leur manière lorsque, dans les textes qu'ils écrivaient, ils parlaient de l'appartenance à l'élément tribal ou à l'élément ethnique, Stammeselement ou Volkselement, juif, donc cet élément tribal juif, qui appartient au corps du peuple allemand, au Volkskörper.
Merci beaucoup, Lucie Quesnel. C'est d'autant plus important pour nous d'écouter cela, parce que c'est toujours très difficile pour un Français de traduire le terme de völkisch. Et d'ailleurs, maintenant, je crois qu'on a plus ou moins renoncé et qu'on le laisse dans l'allemand, parce qu'il y a des bibliothèques entières sur cette question. Merci encore. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à notre collègue Dirk Schuster, qui, après avoir fait ses études à Leipzig, nous vient de Potsdam. Kollege Förster, bitte sehr, für 20 Minuten, 25 Minuten.
Good morning, ladies and gentlemen. In the following minutes, I would like to... In the following minutes, I would like to present to you how race can function as an exclusive space for religion in receiving religious salvation. Exclusive space is here meant in the sense that only an exclusive group of people has access to this constructed space. So, in this context, space is understood as a social construction according to the sociological approach to spatial conception. So, this is not a space which involved naturally, but an intentionally constructed space. We all know spaces which are restricted in accessibility. For example, at clubs or discos, a selection on the entry is made on the grounds of look, style, social status, connections, etc. So, and based on that, you can go in or not. So, I try to connect this mechanism of inclusion or exclusion with religion. The criterion on inclusion or exclusion is in this instead race. You will see in a moment that based on an empirical example, I try to define race as a criterion to access a specific form of religion, which thereby created a distinct pattern of exclusion. It means by religiously motivated exclusion based on race. For this purpose, I think it's important to define the terminology of race and racism for the topic, and on which grounds a racial categorization is being made. According to George Fredrickson, racism is being defined by ethno-cultural differences which are further defined as congenital, indelible, and unchangeable. Unchangeable is very important. This refers to presumed differences between people as language, tradition, family relations, and so on. beliefs are then seen as characteristics for an imaginary collective. At this point, I would like to add, as a typical feature of racial concepts, the alleged behavioral patterns of this constructed collective. With this, I refer to common superstitions as a Jewish greed for money, or the inability of Africans to accommodate the Western standards, or the Germans are hard workers, and all these stereotypes. Frederiksen names in his study of racism another feature of racism which I found rather important in this context. Racism is expressed in practices, institutions, and structures which find the alleged justification or validation in the recognition of a group as the other. I won't speak of racism in my conceptualization of religion if, according to Frederiksen, there would be a possibility of assimilation. Furthermore, in the context of institutionalized religion would then involve a possibility of conversion. Borders are drawn to differentiate and part from the other and therefore construct a national identity. So, the own national identity is being constructed in defining the other, which is particularly relevant in constructing the own group identity. You separate from the other to illustrate the features of their own or in-group identity. Of these identity borders are understood as unseparable because of innate characteristics. It is indeed a racial or more racist conceptualization. The most common example for that is the color of skin, you know. If someone is denied access to a group because of his or her skin color, this is what we call racist conceptualization. Because this conceptualization denies the other may show any signs of adaptability to the in-group, referring to innate and differences to myself, to the I. You could call it even racial exclusion in the grounds of innate and irreconcilable barriers. I'm too tired, sorry. For example, the cohabitation of Germans and Jews was depicted as impossible on various levels. Therefore, the Jews, here the others, had to be separated from the Germans or the German society. These racially othered people were denied access to the society. They weren't even seen as part of the society, of the German society. We saw this concept being realized again in the apartheid regime in South Africa, the former racial restrictions in the US, and, of course, in Nazi Germany. But the exclusion from social and political participation in the US and South Africa was not directed at religion. The other could nevertheless participate in the dominant religion of the standard culture. People of color, black people in the US and South Africa could therefore still, and in spite of the current oppressions, become part of Christian community. When I am speaking in the following of racial exclusion in the religious field, I refer to the inclusion of people of color in the American church communities. These were still strictly divided into whites and blacks, therefore services were held separately. But the access to religion, to the Christianity, was not denied. The people of color were granted access to the institutionalized Christianity in America. Speaking of racial exclusion in religion thought, I would refer to something else. Some people were fully denied access according to their belonging to a specific race. This means ultimately an exclusion from religious salvation, because people were denied access to sacraments as a baptism, for example, or communion and so on. And this, which in the end meant an exclusion from Christian community. Thereby, only people of the right race were to receive the holy sacraments and the divine message of the clerical doctrine. There was no other possibility for the others or excluded people to become Christian or to maintain their status. The space in which religion could be practiced or experienced was then defined by race. These racial boundaries defined who was to be chosen to receive religious salvation. So you can see it on this map. I concentrated on Christianity only since my present example refers to that. The racial religious concept was realized in the German Protestantism during the 20th century. In 1927, two young pastors in Thuringia, founded a group which was later known as the German Christian Church Movement. And when I speak of German Christians, I refer to this group in the 1930s. This shall not be taken as a general geographical reference to Christians in Germany. I mean this group. Come to the first point. This is not an example for a small sect whose conception of world manifests solely in the theoretical discourse. There were several small groups of these focus movement, we heard, in Germany in the first half of the 20th century, which had not more than 1,000 members. But these small groups had no influence to realize their ideas to a greater context. This was different to the German Christian Church Movement. They took control of the whole regional churches in Thuringia. So here's everybody now. So that's Germany and over Bavaria, between Bavaria and Prussia, that's Thuringia. And they took control over the Church of Thuringia in 1933. At this time, there were 28 Protestant regional churches in Germany, and they all adopted independently and were in charge of their own region. In the following years, the German Christian Church movement expanded their influence on other Protestant regional churches in the Third Reich. Since the end of the 1930s, they supervised about 6 regional churches in Nazi Germany or forged alliances with other regional churches, as, for example, with the Prussian one. The regional churches, sympathized with the German Christian Church movement, adopted their German Christian conception of religion. And this movement was therefore an inner Protestant movement, which exists until 1945 and have a significant influence on the different regional churches in Germany. The racial subdivision of humankind was the fundamental element of the German Christian religious doctrine. So here you find the symbols of this movement. Accordingly, they recognized the different races as a hierarchical order given by God. The racist doctrine was then not only a scientific theory of German Christians. They thought they understood the divine order of the world. Internationalism and miscegenation were seen as a rebellion act against the divine plan of creation given by God. Other important factors influencing the effectiveness of the German Christian church movements were Protestantism, the interdependence of Christianity, in Germany, of course, and National Socialism, and very radical anti-Semitism. The German Christian Church movement had the proofs goal to enforce another reformation of the Protestant Christianity in Germany. By that, they tried to enforce Germanization, Verdeutschung, of doctrines and liturgy. Germanization refers to a racially motivated concept of religion with an exclusive character. It was directed against Jewish influences and church members which were not German by race. These anti-Semitic approaches to Christianity were not new, we heard it. But the movement was the first to interconnect the idea of a German Christianity with the racist doctrine of a political movement, the National Socialism. Hitler got the role of a messiah of the, in the German Christian doctrine. He was seen as a Führer by the grace of God, Führer sent by God, God's instrument, or God's prophet. As I mentioned earlier, the racist doctrine was a fundamental element of the ideological conceptization of German Christian church movement. Miscegenation was seen as a violation of the order of God. This was not only applied on biological thinking, religion was seen as racially predestined. According to the German Christians, God differently revealed himself to people of different nations. So every nation should have their own Christianity. Their political agitation was aimed less on the dissociation from other Christianities as Catholicism. Here we see this limitation of religious salvation based on racial concepts. The German Catholics were said to follow the false doctrine, which was coined by foreign racial influences. But the crucial point was their belonging to the Nordic or Aryan race. The Catholics in Germany were given the opportunity to receive religious salvation because of their belonging to the right race and their Christian faith, even with a false exegesis. Therefore, the German Christians engaged in the idea of overcoming the schism of the Christian church in Germany and maybe to reunite all Germans in one national church, Volkskirche. First and foremost, the faith of the Christian God and the racial coined membership of the German Aryan nation were of substantial significance in the attainment of salvation, more than differences in theology. The space in which salvation was a possibility then referred to race. Therefore, Scandinavians, as racially closest relatives to the Aryans, were granted access to the salvation in terms of the German Christian movement. This became particularly obvious in the case of the so-called Jewish Christians. Jewish Christians means converts to Christian faith, or Christians with Jewish ancestors who convert to Christianity. For example, your grandfather was a Jew. This division in Jew or not Jew was easily made with the church records. And as we know, it was the only way also for the Nazis to reconstruct the race of a man or a woman. So this criterion was therefore central for the German Christian religious doctrine. The German people were seen as God's chosen people. They saw themselves in contrary position in the outcast Jews. Judaism. Even Jesus and the early Christians were depicted as the first to fight against Jews. Furthermore, God revealed himself in historical figures as the, Martin Luther, Frederick the Great, or even Otto von Bismarck. The German Christians saw the revelation of God himself, in historical events. And so, the argument was the Germans are the chosen people because God sent us always these great people, Luther, etc. And of course, the last one in these great people were Adolf Hitler. And this why it was therefore the declared goal of the German Christians to finalize Luther's unfinished Reformation under the God-sent Führer Adolf Hitler. Hence, they started in 1933 to liberate doctrines and literature from all Jewish influences. They even expanded that to the practice in the communities under their influences. Immediately after the Nazis dismissed all Jews from the civil service, the German Christians performed the same action in their churches. Speaking of Jews in this context doesn't necessarily refer to an actually adherent of Jewish faith. So people who were categorized as Jews, in fact, had for most part only ancestors of Jewish descent. They were Christians. The German Christians dismissed all such persons, although they were Protestants, Christian according to their confession. They divided and paralyzed the community into two groups, in Christians and Jewish Christians. The background is that they wouldn't undertake a German pastor to perform sacred actions as baptism and so on Jews. And I repeat it again, these were not Jews, they were, and from the faith, they were Christians. And these Jewish Christians could not pay church taxes as they weren't seen as part of the Christian community anymore. The separated Jewish Christian communities were dissolved partly after, time by time, and affected people were expelled. And as bitter it may be sound, an expulsion was often not necessary because these people left the church for their own or they became victims of the Holocaust. The German Christians created a religious community which defined on one part as Protestant Christians and the other part as belonging to the right, to the Nordic race. The Jewish Christians which lived in the influence area of the German Christians stood no chance to become members of the Protestant church again. They were completely excluded from church service, baptism, etc. Salvation in the Christian term was not possible for them anymore. Only those people who belonged to the right race were allowed access. This is how I show with the bubble. Not my last point. Also, racial theory could be proclaimed as God's big plan, and you could even explain with recourse to the German history why Adolf Hitler was the Führer sent by God, and so on. You could create religious spaces who defined who got salvation and so on, but one problem remained, the history of Christianity and its tradition, and because we all know Jesus was a Jew. So I hope we all know. So they needed a legitimation for their racialized conception of religion. They had to provide concrete evidence why only Aryans were granted salvation and not, for example, the Jewish Christians. Therefore, six Protestant regional churches, six Protestant regional churches led by the German Christian Church Movement founded in 1939 the Institute for the Study and Eradication of Jewish Influence on German Church Life. Over 50 academics, professors, contribute to this anti-Semitic research institute which aimed at the de-Judification of Christianity. So here you can see Walter Grundmann, you see, told you he was the spiritus rector of this institute. They showed evidence with genealogical works on Jesus' parents being indeed religiously Jewish, but racially couldn't be Jewish. Rather, they tried to prove that they found Aryan origins in the Galileans. Thereby, Jesus would have been at least partly of Aryan descent. Hence, Jesus was supposed to be the biggest fighter against Judaism. According to their racial ideology, the Aryans and the Jewish race have been constantly fighting each other. All biblical evidence were depicted Jesus as a Jew were considered falsified by Jews. So when you read Jesus was a Jew, oh no, this was false, this riled the Jews. Besides these alleged evidence of Jesus not being Jewish, this institute create a Jewish-free Christianity for present time. They published in 1940 a new Bible omitting the Old Testament and created a Jesus who was fighting Jewry. So you can see it on the headlines, Jesus fight, Jesus victory, so all these Nazi terms. All evidence to conclude that Jesus might have been a Jewish descent was omitted. A new Bible was printed more than 200,000 times, and it was just for war that the printing was stopped. Furthermore, a new hymn book was created, omitting all Jewish terminology as Hallelujah, for example. So the German Christian movement could historically legitimize their Aryan Christianity with the new Bible and showing evidence that Jesus was not Jewish. I conclude. We can use space as a term referring to religion in a geographical or cultural way. In my case study, it required a different approach. The German Christian church movement didn't create geographical or cultural spaces which allowed overcoming borders of religious confirmation and salvation, because thereby converts would have been included who considered themselves as German or Protestants. My study shows that race created a space with limited access to divine salvation. The racial subdivision was understood as part of God's creation. The Kant meaning the religion once being born into or the religion of one's ancestry defined the spatial borders. Access religion was only provided within these borders. The possibility of committing to one religion or to one God was thereby limited according to exclusive racial boundaries. Ritual space was being created, which was defined by confession and race, excluding the other object. Only members of the Aryan race were free to participate in this constructed space, and only they could receive salvation according to the German Christian ideology. A religious space was constructed whose accessibility was being limited by race. The last step towards adjustment of the religion with racist ideology and the realization of the German Christian doctrine was the de-Judaification of the contemporary Christianity. Thank you for your attention.
Thank you so much for this illuminating lecture. on se donne un petit quart d'heure pour après avoir un quart d'heure de... Donc nous, on a un petit quart d'heure de discussion, même 10 minutes, mais on pourra continuer la discussion après encore avec un autre quart d'heure avec les viennoiseries.
Quelques questions, soit anglais. Ah oui. Four topics.
But just questions.
No, but okay. there are top questions. Okay. C'est le titre de question. Marcionite theology. The way in which they integrated that into their Judification, one. Date et diffusion. What's the earliest date of the diffusion of their publications? Was there any effort whatsoever to bring this message outside of Germany? And then three, missiology. How did they deal with the historic role of the message of the church, because this obviously completely contradicted it. Thank you.
Oui, merci. Donc, l'exposé de Dirk Schuster a résolu en quelque sorte la contradiction posée par celui de Lucie Kainel. Et c'est sur la contradiction entre la pensée Völki et les églises protestantes d'Allemagne que je voudrais vous interroger, mais dans une perspective comparée. Parce que si on sort du cas allemand et qu'on regarde du côté, par exemple, de la Russie, on voit très bien que de Fyodor Dostoïevski à Vladimir Poutine, le mouvement Folky est parfaitement, en quelque sorte, parallèle à la revendication de l'orthodoxie comme le lieu même d'expression d'un peuple témoin, qui est le peuple russe. Mais vous auriez quelque chose de très très similaire du côté du mouvement réactionnaire espagnol de la deuxième moitié du XIXe siècle, pour lequel l'hispanité et même le concept de raza est absolument synchrone, absolument en quelque sorte homogène avec la défense de la catholicité, et jusqu'à Franco, hein, de Méndez Pelayo à Franco, si vous voulez. Et donc la question que je vous poserai est la suivante, c'est la discordance allemande, à votre avis, est-elle liée à des caractères spécifiquement théologiques du protestantisme allemand ou à l'expérience du libéralisme dans la société allemande depuis le début du XIXe siècle? C'est-à-dire, le problème est-il la religion ou est-il le libéralisme?
I would start with bringing them outside of Germany this thinking. There were very close connections to different countries, for example, to Sweden, to the University of Lund. There was organization who want to bring these ideas to the Swedish people. And then this institute has also a lot of lecture tours to Finland, to Norway, and to the Netherlands.
When?
In 1940-1941. And then there was a branch of this institute in Romania, in Hermannstadt, Sibiu, because of this German-speaking minority of the Transylvanian Saxons. And there was also a branch and a connection outside of Germany. And the second one, the message, because this conflict of these only Christianity for Germans, there was the racial theory, the basic, because with the racial theory you can say, okay, the race is given by God. So, and then that's why every race has to define their own Christianity. And that's why we have our German or Nordic or Aryan Christianity, and we have to pull out all these other influences, Jewish, from South Europe, that means from the Pope and so on. So this was the ground, when I understand you correctly.
Si j'ai moins, j'ai envie de dire, j'ai moins à dire. J'avais plutôt envie de réagir à la demande, à la question de Monsieur Schaub concernant cette contradiction entre la pensée folkish et finalement une théologie des églises allemandes prise dans un sens global. Ben, c'est précisément là que se trouve le nœud de la problématique. Je pense qu'on ne peut pas parler d'une théologie protestante allemande. Entre le libéralisme théologique, je ne parle pas du libéralisme économique, mais il y a un lien. Mais entre le libéralisme théologique, une pensée orthodoxe ou néo-orthodoxe qu'on attribue à Barthes, entre des formes de piétisme, on ne donne pas du tout la même valeur au rôle de la parole de Dieu dans la construction théologique et au rôle de l'implication dans le monde. Barthes va effectivement poser la parole de Dieu comme instance suprême de régulation du discours théologique. Des protestantismes libéraux poseront plutôt comme discriminant l'implication ou la prise en considération de la modernité. Donc aussi, que doit dire la théologie sur un plan politique, ou que ne doit-elle pas dire, comment doit-elle se comporter par rapport à ce qui se passe dans le monde, dans la société, avec toutes les dérives que cela peut avoir. Et pour compliquer un petit peu la donne, va se greffer là-dessus aussi la doctrine ou une certaine réinterprétation de la doctrine des deux règnes de Luther, où quand les choses se compliquent trop au niveau de l'imbrication État-Église, on va aussi jouer la carte d'une intériorisation très protestante, mais très protestante allemande. On trouvera ça moins ailleurs. Et on va dire, ben, y a effectivement, ce qui concerne le domaine de l'Église, où l'État n'a rien à dire, et puis il y a l'obéissance due à l'Église, à l'État, où finalement, tant que ça ne remet pas fondamentalement en question le message chrétien, reste toujours à définir ce qu'on entend par message chrétien, on peut se soumettre aux autorités.
Merci après, beaucoup.
Pardon, ah, vas-y. Juste, après, c'est juste une question, où place-t-on les frontières qui permettent de justifier et de légitimer une position ou l'autre.
Et pour complexifier encore, avant le café, Lucie Kennel a mentionné les piétistes. Les piétistes, c'est des gens qui savent très bien l'hébreu. Parfaitement. Il y a même une secte piétiste qui arrive à Jérusalem et en Palestine dans les années 1869-70. Et qu'aujourd'hui, quand vous allez en Israël, vous avez dans 6 ou 7 villes une German colony que tous les touristes prennent pour les gens qui sont des rescapés de la Shoah, etc. Et quand ils regardent, vous avez en caractère gothique des citations de l'Ancien Testament. Et donc, vous avez, pour complexifier encore la chose, une partie de la culture protestante allemande qui est, peut-être pas hébraïsante, mais pour avoir depuis le XVIIIe siècle, pour avoir une chaire de théologie en Prusse, il fallait savoir l'hébreu, il fallait avoir étudié à Halle et dans tous ces endroits-là. Et enfin, ça c'est l'aspect tragique de la chose, la femme du consul général d'Allemagne à Jérusalem en 1933 était juive. Un petit quart d'heure.
Oui, Ben. Évidemment, il y a une marque de réponse encore au sujet des martions. Oui. C'est parce que vous avez dit rien à ce sujet. C'est-à-dire que vous savez le président est une prison pour une déjudication du christianisme et elle ne coupe pas du tout les théologies, ne coupe pas du tout avec ses pères assez importants comme
le christianisme. Le martionnisme étant, comme vous savez, ce qui voulait couper le christianisme de ses racines juives. Et un des grands maîtres de la théologie de l'époque, Adolf von Harnack, avait fait un livre, bien sûr, sur le martionnisme. Mais on peut parler de ça.